Vous êtes avec Radio SBS en français.
Allez, aujourd'hui dans le programme, parce qu'on arrive à cette époque de l'année, on a le plaisir d'avoir Stéphane Houdet avec nous. Salut Stéphane.
Bonjour Christophe et bonjour à tous.
J'allais dire bienvenue en Australie, mais ça fait quand même une petite quinzaine de jours que vous êtes là. Je crois que, comme tout le monde, vous avez dû passer par cette fameuse quarantaine.
Oui, alors comme tout le monde, je suis passé par la quarantaine qui a duré 14 jours, donc on peut même parler de quatorzaine. Il n'empêche que, comme vous le savez sûrement, on a vécu différentes quatorzaines selon les joueurs. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans un vol qui était parfaitement Covid-free, comme on dit. Et j'ai eu le droit à mes 5 heures de sortie quotidienne. Donc, c'était une situation relativement idéale pour préparer les tournois et l'Australian Open.
D'accord. Alors, comment vous vous êtes préparé justement à cette Australian Open ? Parce que l'année 2020, on le sait, on ne va pas le répéter, a été une année quand même très compliquée pour tout le monde. Ça veut dire compliquée pour vous. Mais là, aujourd'hui, on se relance dans un nouveau marathon, l'année 2021, avec une inconnue, cette Australian Open, qui est un peu un hybride entre ce que Roland Garros a peut-être pu faire, ce que l'US a peut-être pu faire. Un nouveau modèle. Comment vous vous êtes préparé à tout ça ?
Oh ben moi, je vis souvent les choses comme étant des expériences nouvelles. Donc, effectivement, c'est un hybride. On a vécu un US Open avec zéro spectateur et en étant dans une bulle quasi complète. Un Roland-Garros mitigé avec des spectateurs et une bulle à la française assez perméable. Et surtout qu'à pour Roland-Garros, j'ai commenté la première semaine tous les matchs ATP, WTA, enfin le Roland Garros que vous connaissez. J'ai aussi commenté les finales pour France Télévisions. J'ai vécu les deux parties, la partie sur le court et puis l'arrière-scène ou en tout cas les coulisses. C'était vraiment très sympa. Et ici, pour l'Australian Open, en fait, la préparation, c'est celle qui continue depuis l'hiver pour nous en France et une arrivée où les beaux jours, l'été et la chance pour moi d'avoir 5 heures de préparation quotidienne avec, dans le détail, une journée très rythmée. On apprenait la veille pour le lendemain quel était notre programme et on avait 90 minutes de gym de réservé, donc de préparation physique, 2 heures sur le court, la nutrition dans la foulée et le transport. Donc, je pense que c'est en tout cas une excellente préparation pour nous.
Est-ce que tout ça, l'année 2020, on en avait parlé, hein, toi et moi, à l'époque, il y avait le confinement et vous étiez un petit peu isolé au vert, mais est-ce qu'on sort d'une année 2020 comme elle a été en tant que sportif de haut niveau? Qu'est-ce que vous en avez tiré de cette année 2020?
En fait, c'est un peu l'expérience des accidentés de la vie, à savoir que pour des raisons indépendantes de notre bonne volonté, un jour, les choses peuvent être tellement modifiées qu'elles peuvent presque s'arrêter. Et malgré tout, on se rend compte que là, avec des changements qui sont majeurs, la Terre continue à tourner et les choses continuent à pouvoir se faire avec parfois même de l'imagination, des créations. Alors certes, des grosses adaptations qui sont nécessaires dans tous les univers, et c'est aussi le cas de l'univers du sport, mais c'est aussi le moment d'une introspection, d'une forme de repli sur soi, mais qu'on intègre comme un repos et en tout cas une phase où on a peut-être eu plus de temps pour faire les choses. C'est le cas beaucoup pour les sportifs. Les sportifs, j'ai beaucoup lu et beaucoup écouté ce que chacun disait, et y compris les entourages des sportifs. C'était l'occasion enfin de se poser, de réfléchir à ce qu'on faisait, à prendre du temps, un peu plus de temps pour les autres, peut-être d'être un peu moins centré sur soi comme on a l'habitude de l'être en tant que sportif. Et peut-être que c'est paradoxal, mais moi j'ai vécu une année 2020 fantastique. Alors il se trouve que, en plus pour des raisons personnelles, je me suis marié, j'ai entre les périodes de confinement en France réussi à voyager malgré tout et à faire ce que j'avais à faire. Alors certes, le mariage a été déplacé, il devait se faire à Majorque et on a dû annuler puis rapatrier en France. Mais en tout cas, on a fait un voyage de noces en France avec tout ce qui était permis, et puis par la suite, on est quand même parti en Égypte, au Costa Rica, à chaque fois dans les fenêtres qui étaient autorisées. Donc, 2020, pour moi, sera gravé dans ma mémoire, mais pas comme un mauvais souvenir, au contraire, comme une année exceptionnelle de ce côté-là.
Ouais, absolument. Est-ce que vous comprenez un peu, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de joueurs qui ont quand même contesté cette quarantaine, qui ont contesté l'arrivée en Australie. Il y a des choses qui étaient annoncées, qui n'étaient pas annoncées, des choses qui ont changé. Est-ce que vous comprenez un petit peu cette polémique, et j'extrapolerai un petit peu peut-être en disant, est-ce que vous comprenez peut-être la réaction des Australiens par rapport à tout ce qui s'est passé de l'année 2020, et peut-être qu'il y a eu un clash là qui n'a pas forcément été très bien géré par les parties en cause.
Ouais, alors là, je mettrai ma casquette de vétérinaire, hein, même si ça fait des années que j'ai pas pratiqué, mais l'épidémiologie est aussi une matière qu'on connaît un petit peu. Et avec le recul, eh bien, je pense que on peut conclure que la quarantaine est une solution, et peut-être la solution, et ce que le monde entier n'a pas toujours fait, ou en tout cas la France n'a pas fait, peut être pris aujourd'hui comme un exemple. Donc évidemment, ça fait bizarre d'avoir ce type d'isolement, de fonctionnement, mais quand on voit les résultats, je pense qu'on ne peut que les saluer. Et évidemment, je me mets à la place des Australiens d'être, ou en tout cas pour l'État de Victoria, d'être à zéro cas aujourd'hui, et de pouvoir être en zone sûre, passer ces 14 jours, de savoir qu'on peut avoir la vie dont on rêve tous, ou dont on rêvait tous, qu'on avait par le passé. Je pense que pour un joueur de tennis, les problèmes de communication qu'il y a eu en amont sont peut-être aussi une méconnaissance de l'épidémiologie, justement, et de la façon dont on peut se retrouver dans une zone saine. Là, on peut dire aujourd'hui que, effectivement, 14 jours, et surtout pour ceux qui ont été enfermés 14 jours dans leur chambre, c'est une période difficile. Mais quelle joie par la suite de pouvoir se retrouver dans le monde d'hier. En fait, là, dès aujourd'hui, on est dans le monde d'hier, celui qu'on aimait tant et qu'on recherche.
Absolument. Allez, on va parler de sport un petit peu, comme ça, quand même, pour ça qu'on est là également. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet Australian Open? Il est où l'objectif pour vous? Est-ce que pour vous, c'est un objectif un petit peu différent des autres années, ou est-ce que ça reste balle par balle et on verra bien ce qui va se passer?
Ouais, alors je pense que évidemment le langage langue de bois, c'est toujours aujourd'hui de jouer balle par balle, coup par coup. Mais moi j'ai beaucoup travaillé cet hiver, on a continué la préparation, et j'ai eu une équipe renforcée. Je me suis retrouvé avec des stagiaires qui ont fait un boulot fantastique, et mon entraîneur Christian Filliol, avec qui j'ai travaillé aussi à distance du fait des conditions, mais on a fait beaucoup de vidéos, beaucoup d'analyses. Je ne sais pas si je l'ai dit à plusieurs reprises, mais j'ai le sentiment d'être un nouveau joueur. Alors, je ne suis pas le plus jeune, mais d'être encore un nouveau joueur et de pouvoir faire encore de belles choses. Donc, évidemment, moi, j'ai dans un coin de la tête de gagner à nouveau des grands chelems, d'aller chercher des médailles aux Jeux. Et donc, ça commence dès l'Australian Open.
Alors justement, ces jeux, parce qu'on en parle beaucoup, bien entendu, on le sait tous, hein, les Jeux de Tokyo de 2020 sont devenus les Tokyo 2021. Il y a beaucoup de rumeurs autour de Tokyo. Est-ce que pour vous, même si ça reste un objectif dans l'année, là, pour le coup, vous êtes aussi dans l'expectative, vous ne savez pas trop, comme tout le monde, ce qui risque de se passer dans les mois à venir. Donc du coup, peut-être ça peut changer la donne aussi pour vous ou pas? Parce que l'objectif était toujours, de toute façon, d'aller à Paris. Il y avait en chemin, il y avait
Oui,
Tokyo,
oui, oui,
l'objectif, il est
oui,
parisien.
oui, oui. Et après, les joueurs de tennis, hein, on a la chance d'avoir de grandes épreuves tout au long de l'année. Donc, le simple fait de se retrouver à jouer les quatre tournois du Grand Chelem sont déjà une motivation fantastique et annuelle. Donc, les jeux sont toujours la cerise sur le gâteau une fois tous les 4 ans. Je les garde dans un coin de la tête, évidemment, enfin même pas que dans un coin de la tête, hein, c'est un gros objectif. Et moi, comme je suis un optimiste de nature, je me dis qu'ils auront lieu, et peut-être avec des restrictions comme celles qu'on a vécues dans les grandes épreuves, hein, mais je garde en tête mes échanges avec le directeur de l'US Open, qui m'a dit que malgré les difficultés pour organiser, malgré l'absence de spectateurs, ils avaient quand même généré des bénéfices sur l'épreuve, ne serait-ce qu'en droit de retransmission télévisée. Et je pense que, quelle que soit la difficulté, Tokyo pourra toujours opter pour une diminution du nombre de spectateurs, pour des innovations. C'est vrai qu'à New York, on s'est retrouvé avec un player box virtuel, on a des spectateurs virtuels aussi. Je pense que le monde évolue et que peut-être ils s'orienteront vers quelque chose de très électronique, très digital, très moderne pour ces Jeux de 2021. Donc, je les garde comme objectif et j'y crois encore, ouais.
D'accord, ouais, on peut leur faire confiance. Niveau technologie, ils sont quand même un petit peu au top. Hein. C'est pas...
Oui, en plus, c'est clair. Ouais.
Bon, pour vous, cette année, l'objectif Australian Open, vous venez de le dire, il est quand même d'aller assez loin dans le tableau et de remporter ce tournoi. Ouais. J'ai cru voir un peu en vous suivant sur les réseaux sociaux qu'il y a quand même eu de la technologie derrière vous. On avait parlé longtemps hein, du fauteuil, des roues, de tout ce que vous avez pu investir dedans. Il y a aussi l'analyse de votre service. J'ai cru voir ça. Vous avez une vidéo. Parlez-nous un petit peu de ça pour les gens qui ne connaissent pas, en fait.
Ouais, bah alors en fait, on a une équipe de chercheurs en France qui s'est spécialisée sur le service depuis de nombreuses années. J'ai même collaboré avec Caroline Martin, qui est en charge de cette unité de recherche pour la partie tennis fauteuil, où elle a écrit un livre à ce sujet. Et dans son unité de recherche, elle fait passer de nombreux joueurs et joueuses pour décortiquer leur service et trouver le geste optimal. Donc, il y a un mélange de biomécanique, de tennis, bien sûr, et d'études technologiques pour déterminer la meilleure façon de servir. Alors, les modèles aujourd'hui sont ceux que j'ai publiés et c'était effectivement mon service. Il n'empêche que le plus important à la suite de ces travaux, c'est de pouvoir améliorer. Et donc, elle m'a donné des billes et on travaille aussi avec les entraîneurs à ce sujet. Alors, il se trouve que quand on est assis, on a une problématique de lancer de balle, de présentation de la balle, parce qu'on ne peut pas corriger avec les jambes, donc il y a beaucoup de travail de ce côté-là. Et puis, il y a aussi une histoire de taille. Forcément, on est plus bas, et donc pour servir fort ou pour trouver des angles, il faut qu'on travaille sur la position, et il faut qu'on travaille sur, en l'occurrence pour moi, la force au niveau du bras et la vitesse. Donc voilà, plein d'éléments qui font que même moi, chaque jour, mon quotidien, j'ai l'impression qu'il est différent, nouveau, et c'est ce qui m'anime toujours autant.
Ouais, puis j'ai vu que vous avez bossé sur la pointe de vitesse aussi. Ça, c'est toujours primordial.
Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. C'est vrai que bah, le jeu assis, hein, c'est un mimétisme du jeu debout. Il faut être précis dans ses déplacements pour être plus juste dans ses coups. Donc effectivement, comme moi, je ne suis pas en fauteuil au quotidien, la partie sur laquelle j'ai des lacunes de déplacement fauteuil, ben j'essaye petit à petit, pas uniquement de me renforcer physiquement pour mieux me déplacer, mais aussi de comprendre quels sont les déplacements. Parce que la grosse particularité du jeu en fauteuil, c'est que comme on doit garder le fauteuil mobile en permanence, eh bien, de temps en temps, on va être dos au filet, donc dos à la balle. On va la perdre visuellement des yeux, visuellement, on va en perdre le contact visuel. Et donc, il faut imaginer quelle va être sa trajectoire. Et c'est quelque chose de complètement différent du jeu que j'avais appris quand je jouais debout. Donc, c'est bien de travailler là-dessus aussi.
Ouais, parce que comme on dit, hein, dans le ski, planter le bâton, en tennis, il ne faut jamais perdre la balle de vue. Hein. Ouais.
Ça, c'est sauf au tennis fauteuil, voilà. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'en jouant au tennis fauteuil, on se rend compte à quel point le cerveau n'a besoin finalement que de quelques images pour reconstruire la trajectoire de la balle. Donc on pourrait envisager de jouer au tennis en perdant de vue la balle des yeux, parce que le cerveau ne la perd pas justement. On arrive à tout reconstruire. C'est ce qui est magique.
Stéphane, c'est super, c'est toujours un plaisir de se parler. J'espère qu'on pourra éventuellement se croiser. On ne sait pas à quel point la bulle sera étanche ou pas étanche au niveau de l'Australian Open, mais en tout cas, je vous souhaite un super moment ici en Australie, parce qu'il y a un petit tournoi, il y a des tournois.
Ouais, il y a deux tournois de préparation.
Il y a des choses.
Et mon petit doigt me dit qu'on pourra se croiser, parce qu'il me semble qu'il y a eu de gros efforts qui ont été faits et que vous allez pouvoir avoir une accréditation autre que virtuelle, mais aussi physique. Donc, on pourra se croiser.
Voilà, tout à fait. Merci Stéphane. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur SBS.
Merci à tous.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.